peu l'après-midi avec les précipitations. 14 à 18 du nord au sud, jusqu'à 25 encore pour la Corse. Mais patience, les températures en hausse et le retour du soleil pour tout le monde. Ce sera à partir de mercredi et au moins jusqu'à la fin de la semaine.
France Inter, 6h. Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Sous les dorures de l'Elysée, de nombreux différends à régler. Le président chinois Xi Jinping est à Paris sur fond de tensions commerciales toujours plus fortes avec l'Europe et de guerre en Ukraine. Le ministre du Logement favorable à ce qu'on expulse plus facilement les familles d'enfants délinquants de leur logement social. Colère à gauche où on l'accuse de vouloir ajouter de la pauvreté à la pauvreté, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous serons aussi au Brésil où le bilan des inondations historiques s'aggrave et en région parisienne où le réseau RER s'étend ce matin vers l'ouest de la capitale.
Inter. Cérémonie en grande pompe aux Invalides cet après-midi, banquet à l'Elysée ce soir.
Les fastes de la visite d'État de Xi Jinping feront-ils oublier les tensions entre la Chine et l'Europe? Au lendemain de son arrivée à Paris, le président chinois va enchaîner aujourd'hui les rendez-vous avec son homologue français, mais aussi ce matin avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui prévient juste avant cette rencontre. Elle veut une concurrence commerciale équitable et non faussée avec Pékin, qu'elle accuse de pratiques déloyales, le commerce, mais aussi la guerre en Ukraine, principaux points sensibles à l'ordre du jour, Dominique André.
La guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, est un sujet prioritaire, fait savoir l'Elysée. Hier, le journal Le Figaro publiait une tribune de Xi Jinping, dans laquelle il écrit espérer que la paix et la stabilité reviennent rapidement en Europe. Mais le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe, et prochainement, il recevra Vladimir Poutine pour la deuxième fois à Pékin depuis le mois d'octobre. Durant cette visite d'État, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que la Chine fasse pression pour faire évoluer Poutine. Emmanuel Macron le croit-il vraiment? L'autre grand dossier de cette visite, c'est le commerce, avec 49 milliards d'euros de déficit commercial pour la France en Chine et près de 400 milliards pour l'Union européenne. La politique défensive de l'Europe sur les voitures électriques chinoises irrite profondément Pékin, qualifié de partenaire, concurrent et rival systémique en 2019.
Dominique André, face à cette concurrence chinoise, le gouvernement fixe un nouvel objectif à l'industrie automobile française, quadrupler les ventes de voitures électriques d'ici à 2027 pour atteindre 800 000 véhicules écoulés annuellement contre 200 000 aujourd'hui, et surtout que la plupart d'entre eux soient fabriqués en France, seuls 12% le sont aujourd'hui. Dans ce plan stratégique que la filière doit signer aujourd'hui à Bercy, l'État s'engage de son côté à poursuivre ses aides à l'achat de type bonus écologique ou leasing social. Lui a présenté vendredi dernier son projet de réforme du parc HLM. Le ministre du Logement évoque un possible renforcement à cette occasion des possibilités d'expulser les familles d'enfants délinquants de leur logement social. Guillaume Kasparian s'y est dit ouvert hier midi sur France Inter. Il n'est pas normal, selon lui, que des habitants du parc social soient, je cite, « embêtés par certains qui ne respectent pas les lois ». Mais c'est une fausse solution, selon David Béliard, adjoint écologiste à la maire de Paris et président de la régie immobilière de la capitale.
C'est encore une fois ajouter de la pauvreté à la pauvreté, des difficultés aux difficultés. Je ne crois pas du tout que ce soit aujourd'hui la bonne direction. Oui, bien sûr, il faut lutter contre les incivilités à l'intérieur du parc social, notamment sur la question des conflits de voisinage. Il faut que chacun et chacune puisse jouir de son appartement lorsqu'il est dans un logement social en toute tranquillité. Mais là où veut aller aujourd'hui le ministre et le gouvernement, c'est autre chose. C'est quelque chose qui me semble extrêmement inquiétant, préoccupant, puisque c'est encore une fois pointer du doigt les locataires des logements sociaux, en faire des délinquants potentiels. Franchement, c'est à l'encontre, encore une fois, de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour répondre à la crise qui est réelle, hein. Et une seule chose qu'il faut aujourd'hui faire, c'est de mettre toute notre énergie et toutes nos forces pour voir comment on peut créer de nouveaux logement accessible pour toutes et tous.
David Béliard, adjoint au logement à Paris, il répondait à Philippe Lefebvre. Une série noire à Sevran, en Seine-Saint-Denis, avec deux nouveaux morts hier soir dans une fusillade. Moins de 48 heures après un premier mort par balle dans cette même ville. Les victimes avaient 31 et 35 ans. Pour les autorités, peu de doute, toutes ces affaires sont liées au trafic de drogue. Deux unités de force mobile ont été envoyées en urgence sur place. 16 accusés, 2 mois d'audience et une plongée dans le grand banditisme corse. C'est ce qui attend la cour d'assises assises des Bouches-du-Rhône où s'ouvre aujourd'hui le procès d'un double assassinat en 2017 à l'aéroport de Bastia sur fond de vendetta entre héritiers du gang de la Brise de Mer. Parmi les suspects, un profil détonne, celui de Cathy Sénéchal, ex-gardienne de prison à Borgo, qui a reconnu avoir renseigné les assassins en désignant leur cible. Cette histoire a d'ailleurs inspiré le film Borgo de Stéphane de Moustier en salle depuis un mois.
France Inter 6h05 au Brésil. Les autorités comparent la situation dans le sud du pays à une zone de guerre.
Après les pluies torrentielles et les inondations dévastatrices des derniers jours, le bilan monte ce matin à au moins 78 morts, plus d'une centaine de disparus. Porto Alegre, la capitale régionale, est sous les eaux. Le président brésilien s'y est rendu hier soir. Jean-Mathieu Albertini, notre correspondant dans le pays.
Depuis un hélicoptère, Lula survole Porto Alegre et constate l'ampleur des dégâts en compagnie du gouverneur local. Alors que le niveau du fleuve Guaiba a grimpé de 5,30 m, la crue la plus violente de son histoire, une bonne partie de la ville est sous les eaux. Mais la capitale est loin d'être la seule affectée et c'est bien l'ampleur de la catastrophe qui angoisse le gouverneur Eduardo Leite.
C'est un scénario de guerre dans la région. Dans d'autres épisodes de catastrophes climatiques, tout se limite généralement à une localité. Mais cette fois, il y a une caractéristique différente, c'est son extension gigantesque. Et cela englobe des zones très peuplées, il y a donc un risque imminent d'effondrement de divers services dans le Rio Grande do Sul.
334 municipalités sont touchées sur les 497 que compte l'État. 800 000 domiciles n'ont plus accès à l'eau et plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais face à l'étendue du désastre, l'entraide est essentielle. Canoë, jet ski, chaîne humaine, tout est bon pour exfiltrer des personnes bloquées par les pluies et la mobilisation continue alors que de fortes précipitations sont encore attendues ces prochaines 24 heures. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Les pressions internationales n'y changeront rien. Le Premier ministre israélien prévient « Personne ne nous empêchera de nous défendre. Si Israël doit rester seul, Israël restera seul », clame Benjamin Netanyahou qui menace toujours d'une intervention à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. C'est là qu'hier soir, des frappes israéliennes ont fait 16 morts au sein de deux familles, selon les secouristes locaux. Un peu plus tôt, 3 soldats israéliens ont été tués par des tirs de roquettes du Hamas sur Kerem Shalom, le principal point de passage de l'aide humanitaire qui a été fermé dans la foulée.
À 2 mois et demi des JO, un nouvel axe de transport entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France.
Oui, c'est ce matin qu'ouvre au public le prolongement du RER E entre le centre de Paris et le quartier d'affaires de la Défense, mais aussi Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Très attendu, notamment pour soulager le surchargé RER A, 8 km de voies supplémentaires, 3 nouvelles gares, 5 milliards d'euros de travaux, avec l'espoir pour les usagers, Valentin Bertrand, de gagner un peu de temps.
Pour Vincent, fini la demi-heure de trajet et les correspondances entre Gare du Nord et La Défense. Avec le RER E, il mettra
10 minutes le matin. Et j'arrive à 8h30 au lieu de 9h moins les quarts.
Et bon, le matin c'est important, le soir également.
Un temps réduit grâce à la vitesse des nouveaux trains. Ils vont rouler à 120 km/h, deux fois plus vite qu'aujourd'hui. Et surtout offrir un itinéraire bis à Jonathan.
Quand on voit effectivement trop de monde sur les quais, ça permet en quelques pas de changer de quai et de prendre la E pour remonter sur Porte-Maillot par exemple. Et c'est une alternative. Je pense que ça va beaucoup désengorger la 1 et la A.
C'est tout l'objectif, moins 15% de fréquentation attendue sur la ligne A, mais pas pour tout de suite. Jusqu'à la fin de l'année, le prolongement du RER E ne sera ouvert que de 10h à 16h.
C'est une plaisanterie, non ?
Ils font ce qu'ils peuvent, je pense, mais au moins ça fonctionnera partiellement pour les JO.
C'est vrai ? Pourquoi ils ont fait ça ?
Car les nouvelles rames ont encore besoin d'être testées. Margot, 20 ans, devra donc encore être patiente.
Jusqu'en décembre, ça risque d'être compliqué parce que c'est pas sur les heures de pointe, enfin 10h, 16h, c'est là où il y a le moins de monde dans les transports.
De la patience, il en faudra aussi aux habitants des Yvelines. Pour eux, le prolongement du RERE jusqu'à Mantes-la-Jolie, ce sera fin 2026.
Des transports en commun parisiens qui verront déferler demain soir les supporters du PSG pour la demi-finale retour très attendu contre Dortmund. Avant cela, de la Ligue 1 ce soir, Lille reçoit Lyon pour la suite de la 32e journée. En cas de succès, l'OL monterait à la 7e place du classement, synonyme de possible qualification européenne. À peine croyable quand on se souvient du début de saison. Ce serait un exploit historique en championnat, Jean-Pierre Blimaud.
Réussir à se qualifier pour une Coupe d'Europe après avoir navigué dans la zone rouge jusqu'à la trêve, aucun club français n'a accompli cet exploit depuis les 30 dernières années, et notamment lorsque la première division se jouait à 18 clubs, comme aujourd'hui, entre 1997 et 2002. Mais à présent, l'OL peut en rêver grâce à une deuxième partie de championnat remarquable. En 2024, Lyon est d'ailleurs la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 derrière le PSG. L'OL est même leader si l'on regarde les résultats depuis la 20e journée. Et pourtant, avec 7 points lors des 14 premiers matchs, l'OL était dans les temps de passage des pires équipes de l'histoire de la première division française. Alors quand on parle de clubs dans la zone rouge au début de saison et finalement européen, il existe deux précédents marquants, mais dans un contexte bien différent. L'OGC Nice en 1997 et le FC Lorient en 2002 avaient gagné leur ticket pour une Coupe d'Europe, mais en remportant la Coupe de France, pas par le biais du championnat. Les Azuréens et les Merlus avaient d'ailleurs à l'époque fini dernier et quitté l'élite à la fin de la saison.
Le LOSC contre l'OL en Ligue 1, c'est ce soir à 21h.
Alexis Morel, le sport dans sa version olympique. Maintenant, voici Esprit Sport.
Esprit Sport, avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grey Knapps.
Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Dans notre galerie de portraits avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le perchiste français Thibaut Collet.
Alors les athlètes français sont peu nombreux, Mathilde, à pouvoir viser une médaille olympique cet été. Eh bien lui, il en fait partie. C'est Thibaut Collet, effectivement un perchiste de 24 ans pour qui tout a changé l'été dernier lors des championnats du monde de Budapest.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On peut dire qu'il a eu un déclic, Mathilde, en terminant 5e du concours du saut à la perche avec un saut à 5,90 m. Pas si loin donc du podium, et il a pris conscience de ses qualités et il a confirmé cette saison en améliorant son record personnel avec un saut à 5,92 m.
Et la perche, c'est une histoire de famille pour Thibaut Collet.
Oui, il a commencé à sauter à 4 ans, vous vous rendez compte, 4 ans dans le jardin de son grand-père. Son grand frère est perchiste professionnel également. Et son père, eh bien, c'était l'un des meilleurs Français en saut à la perche à la fin des années 80. Et c'est lui, Philippe Collet, qui entraîne son fils Thibaut sur la route des Jeux Olympiques.
Et il a un record à combien, son père?
5,94, c'est-à-dire 2 cm de plus que Thibaut Collet, qui sait de toute façon qu'il faudra qu'il tutoie les 6 mètres, la barre mythique de cette discipline, pour envisager un podium cet été, mais il pense être capable de le faire, et il l'a dit à Antonin Kermen de France Bleu Isère.
Moi j'y crois, j'en rêve et je fais ce qu'il faut pour réussir à sauter cette barre-là. Il y a du boulot pour y arriver parce que c'est un mythe dans notre sport, mais je pense que c'est pour bientôt.
Bon, si ça pouvait être le 5 août, Mathilde, le jour du concours du saut à la perche.
Ah bah oui.
Ça serait quand même bon signe pour lui.
Et pour le moment, c'est le seul perchiste français qualifié.
Oui, exactement. Renaud Lavillenie, par exemple, ne l'est pas.
Ah, Cédric Guillou, dans un instant, le grand angle. Et c'est un autre portrait des sœurs ukrainiennes qui font de la natation artistique.
France Inter présente Xi Jinping, le prince rouge. Le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Maintenant.
Dominique André. Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige 1/6 de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
6h13.
France Inter. 5-7.
Le reportage grand angle ce matin avec des prodiges de la natation artistique, les sœurs jumelles Alexiva qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Lors des précédents JO à Tokyo, elles avaient décroché le bronze. Et elles ont du mérite, Marina et Vladislava, car elles sont ukrainiennes et depuis 2 ans, elles s'entraînent dans un pays en guerre. Elles ne le quittent que ponctuellement pour des compétitions internationales comme ce week-end en France, Jérôme Val, pour une étape de la Coupe du Monde dans le tout nouveau centre aquatique olympique de Saint-Denis.
Des sourires dans l'eau pendant les chorégraphies, la recherche du geste parfait, comme toutes les nageuses.
Marina et Vladislava, Alexieva, elles ont intitulé leur duo War Stories.
Mais les histoires de la guerre ne sont jamais très loin dans l'esprit des jumelles de 22 ans, même loin de l'Ukraine.
C'est difficile de contrôler ses émotions, de rester positif. Tout à l'heure, j'ai oublié de désactiver les notifications de mon téléphone sur les alertes en Ukraine et ça me stresse.
Il y a eu du tonnerre l'autre jour à Paris et ça nous a effrayés.
Marina et Vladislava, surnommées Vlada, n'ont pas une préparation comme les autres. Au début de la guerre en février 2022, 2022, elles ont fui leur ville natale, Kharkiv, à 30 km de la frontière russe.
Nous sommes partis juste avec quelques vêtements et une dernière chose, nos médailles olympiques de Tokyo.
Direction l'Italie avec l'équipe de natation artistique, mais au bout de 6 mois, elle retourne chez elle, à Kharkiv, puis à Kiev, raconte Vlada Alexiva.
Nous aurions pu rester à l'étranger, mais nous avons tous nos proches en Ukraine, nos parents, nos grands-parents, mon mari. C'est moins stressant d'être tous ensemble, de savoir comment ils vivent la situation en Ukraine.
Avec des entraînements dans un bassin sans chauffage ou une piscine à côté de laquelle un missile s'est écrasé, les risques sont partout, insiste Marina, la plus bavarde.
C'est comme dans un film d'horreur. On est dans la piscine, on entend une explosion et il faut courir s'abriter, parfois sans savoir où aller. Pour quiconque, ce serait une situation anormale, mais pour nous, c'est devenu normal. Et il faut qu'on s'entraîne dans ces conditions.
Les deux sœurs vont rester quelques jours dans le sud de la France avant une nouvelle compétition au Canada, puis retour en Ukraine en juin.
Tout est difficile pour nous, sortir d'Ukraine et retourner, s'entraîner. Mais nous voulons rester positives. Nous voulons croire en notre pays, en nos soldats, et tout ira bien.
Leur plus grand rêve, décrocher une nouvelle médaille à Paris cet été, pour elle et pour l'Ukraine.
Jérôme Val pour ce reportage à retrouver sur franceinter.fr à la page du Grand Angle. 6h15, bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour.
Quelle une retenez-vous dans la presse ce matin?
D'abord, je vois des microscopes aux unes de la montagne. Dans le Cantal, c'est le microscope d'une clinique vétérinaire de Saint-Flour qui mise sur la recherche pour moins et mieux prescrire. À Clermont Métropole, eh bien, c'est un microscope du CHU de Clermont qui lui s'intéresse aux bactéries méchantes Listeria E. coli, la flambée des alertes alimentaires. À la une du Populaire du Centre, ses voisins, les ravages du crack. Et oui, à Limoges également, c'était des nouvelles du centre de la France. Un peu plus au sud et un peu à côté, à la une de l'Indépendant édition de Narbonne, ses doigts créent des ballons en bois uniques au monde. Ce sont des ballons de rugby en bois, ça fait des trophées sublimes. Allez voir. Ce qui nous amène évidemment aux unes de la Dépêche du Midi et de l'équipe sur le Stade Toulousain qui ira en finale de la Coupe. Non, c'est plus la Coupe d'Europe maintenant parce qu'il y a aussi le Sud-Africain. Peu importe. Stade, une finale au bout du combat, nous dit la Dépêche qui n'est pas peu fière d'être de Toulouse. Allez, un peu plus au nord, j'adore le titre de la Voix du Nord. Tunnel sous la Manche, 30 ans à fond de train. Les voisins de Nord Littoral nous disent que le tunnel a changé le Calaisie. Allez, j'en termine à la une de Libération. Nouveau forage en France, le pétrole qui va couler à flotte. Il s'agit d'une autorisation de prospection Seine-et-Marne qui menace les eaux de Paris. Boirai-je du pétrole? Allez, vous lisez. Hein.
Et puis vous nous avez repéré aussi une histoire de métamorphose.
La métamorphose d'une chanteuse que la France connut dans une joyeuse bande qui, dans ma jeunesse, chantait ceci. Et stop. Et maintenant, pour son bonheur, cette femme, elle chante cela. Alors donc, dans le Télégramme, Alix Cognam nous raconte sa vie d'artiste et elle est géniale, cette dame qui, dans un livre des enregistrements des concerts, rend vie et hommage aux chants gaéliques, aux ballades de l'Écosse, des îles Hébrides, aux chansons des femmes qui foulent la laine pour en faire le tweed, des terres où le chant est un godon et ses chants, dans ses chants, les mots s'entremêlent aux onomatopées. Elle est allée les dénicher depuis plus de 40 ans, ses chansons, dans des voyages sac à dos, dans ces contrées entre mer, loch et montagne où au printemps, il y a des fleurs partout. Autrefois, elle fut célèbre, Alix, invitée à l'Élysée de Valéry Giscard d'Estaing pour cette joyeuse rengaine qui semble désormais un malentendu. La bande à Basile, la chenille, les paillettes. Avant cela, elle avait été la fille globe-trotteur avec ses parents, maman d'Angleterre, papa diplomate né à Rostrenheim, Finistère. Elle avait étudié le théâtre dans une université féminine aux États-Unis. Elle avait été apprentie chanteuse folle guitare en bandoulière dans le Paris des années 60, repérée par Michel Berger. Et puis, le hasard d'une rencontre amoureuse l'avait envoyée à la chenille. Un autre hasard l'en libéra. 1979, après un concert, un accident de voiture grave, Alix s'en sort, elle est en arrêt, elle part en Angleterre et dans une librairie, dit-elle, je tombe par hasard sur un recueil de chants et poèmes traditionnels en l'honneur des femmes des îles Hébrides. Les textes m'ont touché, la passion ne m'a plus quitté. À nos écoutes, mes amis, je vous jure, c'est absolument génial. Cliquez, cliquez. Et acheter son bouquin, et c'est dans le Télégramme.
Et c'est ce que j'allais rajouter, voilà, c'est dans le Télégramme. Merci Claude Askolovitch. Il est 6h18, Esprit d'Initiative est consacré cette semaine au sport et à toutes les bonnes idées écologiques et solidaires qu'il peut véhiculer. Pour commencer, direction les Alpes-Maritimes, Cécile Bidot, vous avez rencontré un Niçois qui remet au goût du jour un sport des années 60.
Ça s'appelle le pitchak, jeu né en Algérie, arrivé à Nice avec les rapatriés.
Quand j'étais moi-même au collège, c'était un jeu qui avait un succès considérable dans les
cours de récréation.
Serge Gabrielich, prof de sport à la retraite, est l'artisan de ce retour avec un but, lutter contre la sédentarité des adolescents.
Je me suis dit, mais maintenant, en tant que prof de gym, il faudrait peut-être que je me serve un peu de cet engouement. Et c'est vrai qu'en le mettant dans les pieds et dans les mains de mes élèves, je me suis aperçu qu'ils réagissaient très bien et ça marche aussi aujourd'hui. Hein. En fait, ils sont sensibles à des jeux sur lesquels on essaie d'améliorer son score. C'est exactement ce qu'ils font sur les jeux vidéo. Tiens, ben moi, j'ai atteint tel palier. Et bien avec le pitchak, c'est la même chose.
Le pitchak, c'est quoi? C'est un assemblage de morceaux de chambre à air de vélo usagé. Cela forme une balle noire qui ne coûte rien et qui permet de jongler. Alors, rien de tel qu'une démonstration. Je retrouve Serge Gabrielich au centre social Les Gayeurs à Saint-Laurent-du-Var.
Voilà, alors là, je le lance sur mon genou et sur le pied et je le fais rebondir. L'idée étant d'en faire un maximum sans le faire tomber.
Donc là, on n'a pas l'image, mais vous êtes en train de jongler avec trois balles, avec les mains et les pieds. Vous
voilà,
êtes très fort.
On peut essayer de combiner, en fait.
Est-ce que j'ai droit à une petite initiation, alors?
Voilà.
Faut que je me lance. 1, 2, 3, 4, 5.
Et un coup de pied, voilà. Ça y est, vous avez pris le goût du jeu du pitchak.
Bon, je ne vais pas dire que je suis essoufflée, mais quand même un peu. J'ai donc repris mon micro et laissé faire mes camarades de jeu du centre social. Donc là, on a un peu tous les âges autour de nous. Il y a les enfants, les adolescents, les adultes.
Il n'y a rien de tel pour l'enfant, c'est qu'on soit avec lui. Parce qu'on peut se plaindre qu'il reste sur ses écrans, mais quand on va vers lui, quand on joue avec lui, ça y est, c'est gagné. C'est une façon de rebondir, c'est le cas de le dire. On met du lien avec des petites rondelles de chambre à air, et c'est la vraie vie, quoi. Alors, vous prenez une paire de ciseaux, un petit bout de chambre à air, et vous allez essayer de couper en petites rondelles.
Retour au calme, les enfants fabriquent leur propre pitchak. Serge Gabrielich récupère les chambres à air du réseau de vélos en libre-service de Nice.
Et voilà le premier pitchak. Tu vas pouvoir t'entraîner à la maison sans rien casser, normalement.
L'initiative est donc aussi vertueuse par le recyclage et par la solidarité. 5000 petites balles ont été vendues pour l'association Le Nimier, qui vient en aide aux enfants du Burkina Faso. Jean-Paul Fouillou, le président.
C'est important que les enfants d'ici connaissent les jeux des enfants d'Afrique et que les enfants d'Afrique connaissent les jeux des enfants d'ici. Ben là-bas, il n'est pas développé les jeux vidéo ou les choses comme ça. Le pitchak, il n'y a pas besoin de jeux vidéo pour y jouer. Donc ça permet de réunir les enfants de deux continents.
Quoi. L'association rêve de voir fleurir des petits clubs partout en France. En projet en cette année olympique, les Olympitchak, entre petits groupes de pitchakers.
C'était l'esprit d'initiative, la chronique de Cécile Bidot, à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22. Les Français sont appelés à voter le 9 juin pour les européennes. Mais voter pour qui exactement? Pour quel type de représentant? À quoi sert le Parlement européen? Quelle est la différence avec la Commission? Et quel est le mode de scrutin? Beaucoup d'électeurs n'ont pas les réponses à ces questions. C'est ce que montre une étude que vous avez réalisée, Adrien Broche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des études politiques de Via Voice, l'institut qui a réalisé cette enquête pour Radio France, mais aussi pour France Télé, RFI et France 24. Donc si je comprends bien, on va voter un peu à l'aveugle. Les électeurs sont dans le brouillard à un mois de ces élections.
Ouais, c'est un peu ça, hein, l'enseignement fort, avec effectivement sur ce rapport à ces élections européennes, je dirais un double niveau, un niveau d'intérêt qui coupe la France en deux. Hein, on a à peu près un Français sur deux qui se dit aujourd'hui intéressé par le scrutin du 9 juin. L'autre moitié de la société française qui se dit lointaine, moins intéressée par ce scrutin, c'est le premier élément. Et puis un élément d'information après, hein, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les deux tiers de l'opinion aujourd'hui dans la société française ne se déclare pas informé sur les élections européennes. Si on regarde même les scores un peu extrêmes, on a trois fois plus de personnes qui se disent très mal informées que de personnes qui se disent très bien informées. Donc un vrai défaut.
Mais à cause de quoi? De qui?
Ah, ça, c'est difficile à dire. Il y a sûrement, évidemment, aussi, d'abord, une responsabilité de long terme sur le rapport à l'Union européenne, peut-être considérée comme trop bureaucratique, trop technocratique, trop éloignée du quotidien. Une responsabilité peut-être aussi de plus court terme sur la manière dont on parle d'Union européenne, dont la campagne se déroule aujourd'hui. Voilà, en tout cas, un éloignement et la perception d'une Union européenne à distance.
Et le sentiment aussi que, de toute façon, tout est joué d'avance.
Exactement. Et c'est peut-être alors à la fois un des points négatifs, mais aussi un des points positifs, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout est joué d'avance, qu'on le dit trop souvent. C'est surtout ça, d'ailleurs, qu'on dit trop souvent que l'élection est trop jouée d'avance, ce qui en appelle aussi, justement, à une campagne un petit peu plus incarnée, un peu plus concrète aussi, parce que, mine de rien, on a une envie de débat de fond et d'avoir
oui.
ce débat important.
Ils réclament plus de débats justement, elles réclament plus de débats les personnes que vous avez sondées. Juste pour revenir au sentiment que tout est joué d'avance, ça nourrit évidemment ce genre de choses, l'abstention. Je rappelle qu'il y a un électeur sur deux seulement qui est allé voter lors des dernières européennes. Sur la perception qu'ont les personnes que vous avez interrogées de l'Union européenne, cette étude, vous l'avez déjà menée en 2021 et 2022 et on voit que cette perception, elle se dégrade.
Oui, tout à fait. C'est aussi en lien avec ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a aussi un lien entre le rapport aux élections européennes et à l'Union européenne, et notamment au Parlement européen aussi. On a aujourd'hui 8 Français sur 10 qui se disent peu informés, pas informés sur l'actualité du Parlement européen. On a un bilan de la dernière mandature qui est très difficilement accrochable matériellement.
Difficile de dire, de donner une mesure de ce qui a été fait ces 5 dernières années, c'est ça ?
20% de l'opinion aujourd'hui qui est capable de citer une mesure, quelque chose qui a été fait. Parce qu'on a aussi l'impression que l'Union européenne et le Parlement européen, c'est une instance de gestion des crises. Aujourd'hui, quand on demande à l'opinion, pour vous, le Parlement européen, qu'est-ce qu'il a fait ? On nous dit en gros l'Ukraine, le Covid, voilà, des situations de crise, de guerre, évidemment, l'agriculture plus récemment. Donc, c'est difficile, d'être en prise aussi avec une réalité matérielle du quotidien quand on a la perception et la représentation d'une instance de gestion de crise à un niveau supranational.
Alors, il y a quand même des points positifs, on va dire, sur le rôle de l'Europe. Deux points, ce qui arrive en tête, c'est l'Europe, c'est une force pour la paix.
Voilà, c'est toujours une force pour la paix. Alors, si c'est le point positif, je suis désolé, je ramène ça à nouveau. On a quand même une légère baisse du sentiment de la capacité de l'Union européenne à assurer la paix et donc une espèce de resserrement, de rétractation de l'Union européenne sur des valeurs, des thématiques plus techniques, l'innovation technologique, numérique, scientifique, etc. Ça reste un atout fort et pour lequel justement l'Union européenne continue d'être une force. Sur la paix, ça reste le premier critère identitaire de l'Union européenne, idéalisé. Ça doit être l'instance qui garantit la paix. En revanche, dans sa capacité aujourd'hui à la garantir, on a quelques doutes qui effectivement ont émergé ces derniers mois.
Et oui, parce que vous avez interrogé évidemment ces 2000 personnes sur la guerre qui fait rage actuellement aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est un paramètre important pour les élections européennes ? Est-ce que c'est un facteur qui va faire en sorte que peut-être on va mettre tel ou tel bulletin dans l'urne ?
Alors sûrement, dans le contexte de distance vis-à-vis de l'opinion, distance généralisée vis-à-vis de l'Union européenne, on va plutôt avoir des points d'accroche relativement classiques, l'économie, etc. Évidemment, l'Ukraine impacte aussi tout ça, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que sur la guerre en Ukraine, on a une France qui est coupée en 3, avec en gros 4 Français sur 10 qui sont satisfaits de la position actuelle de la France sur l'aide à l'Ukraine. 29%, donc quasiment un Français sur 3, considère qu'on soutient trop l'Ukraine au niveau national, et une petite partie de l'opinion, 16%, considère qu'on ne soutient pas assez l'Ukraine. Donc on a vraiment là aussi une société française assez polarisée de ce point de vue-là et divisée en trois.
J'aimerais revenir sur un point de votre étude, Adrien Broche, parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois quand même dans les réponses des contradictions ou des problèmes de cohérence, puisque les sondés disent finalement qu'ils ne connaissent pas le métier d'eurodéputé, ils ne savent même pas faire la différence avec la Commission pour beaucoup, mais ils trouvent quand même qu'ils sont trop payés et pas honnêtes. C'est pas bizarre ?
Oui, c'est à la fois bizarre et peu étonnant. C'est-à-dire que dans un contexte aussi d'ignorance, le mot est un petit peu dur, mais en tout cas de distance globale vis-à-vis du fonctionnement concret de tout cela, ressurgit la méfiance envers le politique de manière générale, qu'on constate évidemment au niveau stato-national de la France, mais encore plus au niveau de l'Union européenne, perçue justement comme cette instance à distance assez bureaucratique. Donc, on ne sait pas bien ce qu'elle fait. Donc, forcément, nécessairement, les membres du Parlement seraient trop payés.
Et toutes ces conclusions-là qu'on vient de dégrainer, est-ce qu'on peut faire les mêmes avec les autres pays européens ? Est-ce qu'il y a le même rapport à l'Europe ailleurs ?
C'est une bonne question qu'il faudra, je pense, poser aux spécialistes des autres Européens. Je ne pourrais pas vous parler avec autant de précision des autres pays.
Il va falloir faire d'autres études.
Exactement, il faut commander d'autres études.
En tout cas, votre étude nous montre qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire sur l'Europe, les institutions européennes et ces élections européennes. Je précise que votre étude a été réalisée en ligne mi-avril auprès de 2000 personnes de plus de 18 ans, échantillon représentatif de la société. Merci à Adrien Broche, responsable des études politiques de Via Voice. On peut retrouver cette enquête évidemment sur notre site franceinter.fr et je vous signale que la tête de liste du PS de ces européennes est ce matin sur France Inter. Raphaël Glucksmann, invité à 7h50.
Merci à vous.
France Inter, abonnez-vous aux newsletters.
Chaque jour, l'essentiel d'Inter dans votre boîte mail. Chaque semaine, le meilleur de l'humour et nos conseils culture.
Pour recevoir nos newsletters, inscrivez-vous sur franceinter.fr.
6h29.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde.
Il y a encore des pluies.
Eh oui, des pluies ce matin continues qui concernent les régions des Hauts-de-France, au Grand Est, au Centre-Est, un peu plus éparses sur le sud du Massif Central jusqu'à l'Occitanie. Puis au fil de la journée, elles vont glisser en dehors des frontières du Nord-Est, mais concernera encore les régions de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes et vont gagner le nord du Languedoc, une partie de la Provence, ainsi que le littoral méditerranéen. Et la Corse, quant à elle, va rester à l'écart. Et puis sur les régions de l'Ouest, on a une goutte froide qui va se rapprocher sur l'Atlantique et on va avoir des averses qui vont s'enrouler autour d'une petite dépression sur la Bretagne ce matin, avec déjà un caractère orageux. Et ce paquet d'averses va progresser dans la journée avec de fréquentes averses orageuses entre l'est de la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Et puis de ce fait, entre les deux, les nuages seront prédominants ce matin et le risque d'averse se généralisera l'après-midi.
Et les températures n'évoluent pas beaucoup.
Non, au fait, au plus bas, il fait 7 dans la Manche à Équilly, mais aussi en Mayenne, 8 en Lozère, alors que vous vous réveillez avec 14 à Strasbourg comme à Albi. Il fait 12 à Paris, 16 à Toulon. Et cet après-midi, on aura généralement entre 14 et 18 et entre 18 et 21 sur le littoral méditerranéen. Et ça va monter quand même jusqu'à 26. Encore, c'est 19 à Paris.
Merci beaucoup. France Inter, 6h30. Le journal, Florence Paracolos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Et si on prolongeait les vacances, le dilemme de la zone B ce matin avant le grand pont de l'Ascension, on va l'entendre dans un instant. La une ce matin, c'est aussi cette hécatombe à Sevran, en Seine-Saint-Denis, 2 fusillades et 3 morts par balle en moins de 48 heures sur fond de trafic de drogue. Pour une concurrence équitable avec la Chine, Xi Jinping à l'Elysée sera-t-il réceptif au message de l'Europe ce lundi? On parle aussi d'un port flottant au large de Gaza, opérationnel dans la semaine pour acheminer de l'aide humanitaire. Et puis PSG Dortmund, jusqu'à 4000 euros la place pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Ce sera demain soir au Parc des Princes.
France Inter.
Mettre un réveil ou pas, la semaine sera courte pour tous les élèves de France et sans doute aussi pour leurs parents. 2 jours d'école ou de boulot, puis à partir de mercredi, le grand pont jusqu'à dimanche. Sachant que la zone B rentre de vacances ce matin, alors faut-il reprendre les cours pour 2 jours ou enchaîner sur une 3e semaine de vacances? Question posée par Hélène Fromanti à Lille.
Certains lycéens sont bien tentés de sécher les cours ce matin pour prolonger les vacances.
Je pense que je vais pas y aller au lycée pour me reposer. 3 semaines, c'est nickel 3 semaines.
Franchement, ça sert à rien, mais je pense que mes parents ils vont me dire d'y aller.
Moi, j'ai mon bac blanc, donc je vais venir.
Quant à ceux qui n'ont pas d'examen cette semaine, la tentation est encore plus forte. C'est le cas des étudiants en classe préparatoire au lycée Federbe à Lille. Sophie a décidé de profiter de tous ses jours fériés pour rester en famille.
Moi, j'habite sur la côte ouest, donc pas du tout à côté de Lille. C'est une zone qui est plutôt touristique. Du coup, les billets de train pour revenir sont extrêmement chers et pour repartir sont extrêmement chers. Donc, j'ai préféré rester chez moi pour les 3 semaines au lieu de dépenser inutilement de l'argent.
Du côté de l'Université de Lille, Frédéric Oxtoel espère bien que les étudiants seront sur les bancs de la fac aujourd'hui.
C'est vrai que les étudiants vont avoir envie, de, comme nous d'ailleurs, hein, d'être au beau temps, mais bon, normalement il y a cours à l'université, oui.
Les étudiants font le pont, tout comme cet enseignant-chercheur en informatique.
C'est pas tous les ans, mais cette année, il y aura le pont, voilà. Parce que les étudiants, on va pas les faire revenir pour une journée, il y en a qui habitent loin, dans leur famille, tout ça, je pense que c'est logique de leur laisser une journée, on n'est pas fait après. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est des semaines d'enseignement et diminuer un peu les volumes des stages.
Pour cet enseignant, la fin de l'année est de plus en plus tôt, avec des étudiants qui partent en stage dès ce mois-ci.
Hélène Fromanti, France Bleu Nord, multiplié par 3 ou presque, les ventes de voitures électriques d'ici 3 ans seulement, objectif fixé par le gouvernement avec les constructeurs pour atteindre 800 000 ventes en 2027. La voiture et les batteries en jeu de concurrence avec la Chine, qui subventionne largement son industrie. Il en sera question aujourd'hui à l'Elysée, avec le président chinois Xi Jinping. Reçu par Emmanuel Macron, la présidente de la commission Ursula von der Leyen sera là aussi, elle qui réclame la fin d'un commerce déloyal. Déclaration écrite dans un communiqué à quelques heures de la rencontre.
3 morts en un week-end à Sevran, en Seine-Saint-Denis.
3 hommes tués par balle lors de 2 fusillades. La dernière a eu lieu en fin de journée hier, en pleine rue. Gaël Joly, le préfet de police, Laurent Nouniez, s'est rendu sur place et dénonce des fusillades liées au trafic de drogue.
Les deux victimes, âgées de 31 et 35 ans, ont été tuées vers 18h hier dans la cité des Beaudottes. Ils étaient connus des services de police pour violence et trafic de stupéfiants. Des tirs qui interviennent moins de 48 heures après une autre fusillade dans le même quartier à moins de 2 km. Vendredi soir, un peu avant minuit, un homme de 28 ans a été tué et plusieurs autres blessés. Deux hommes sont arrivés à bord d'une voiture avant de sortir leur arme. Plus de 20 douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées sur place. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue PlaceNet XXL qui déstabilise les trafiquants, selon le préfet de police Laurent Nunez, qui a assuré aux habitants de Sevran continuer la lutte contre le trafic de drogue avec la présence renforcée ces prochaines semaines de policiers locaux.
Gaëlle Joly, SOS Racisme, la LICRA, les représentants des cultes réunis par le gouvernement pour des assises de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, alors que le nombre d'actes antisémites a presque quadruplé l'an dernier avec une hausse en flèche après le 7 octobre. Date des attaques du Hamas en Israël, prélude à la guerre à Gaza. Et reste-t-il un espoir de trêve dans l'enclave palestinienne ? Officiellement, les discussions se poursuivent ce lundi au Qatar, mais le Hamas exige un arrêt définitif des combats. Inacceptable, a répété Benjamin Netanyahou. Pendant ce temps-là, l'armée américaine achève la construction d'un port flottant au large de Gaza, opérationnel cette semaine a priori. Étienne Menin, il devrait permettre de livrer l'équivalent de 90 camions par jour grâce à des bateaux chargés d'aide humanitaire.
Sur des photos diffusées par l'armée américaine, on voit cette gigantesque plateforme flottante grise posée à plusieurs kilomètres de la côte sur laquelle les bateaux qui viendront de Chypre vont déposer des palettes ou des conteneurs qui seront ensuite acheminés par plus petits bateaux sur une jetée construite au sud de la ville de Gaza. Les Américains dirigent l'opération mais ils prennent soin de se tenir à l'écart de la guerre, dit la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.
L'armée américaine ne sera pas responsable de la distribution. On gère la logistique, on construit, on coordonne, mais il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain à Gaza.
L'ONU pourrait assurer la distribution dans l'enclave si les conditions de sécurité sont réunies. Elle a maintenant des sites de stockage dans le nord. Le port flottant est un rouage supplémentaire, dit Andrea De Domenico, qui dirige la coordination humanitaire de l'ONU à Jérusalem.
Toute aide additionnelle par rapport à ce que on a aujourd'hui, c'est le bienvenu. Ceci ne doit pas nous distraire de l'accès routier. L'accès routier doit rester la vraie solution pour l'acheminement de l'assistance à 2,2 millions de personnes.
Et avant la mise en fonction de ce port, les groupes armés ont menacé. Ils s'en prendront aux soldats étrangers s'ils mettent le pied à Gaza.
Hier à Rafah, 16 personnes de deux familles ont été tuées par des frappes de l'armée israélienne. Quelques heures plus tôt, le Hamas tirait des roquettes autour de Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide humanitaire par la route vers la bande de Gaza, 3 soldats tués et le passage est désormais fermé. Mais jusqu'où ira-t-il ? Donald Trump a, selon les médias américains, comparé l'administration Biden à la Gestapo, l'accusant d'instrumentaliser la justice. Consternation à la Maison-Blanche et dans l'équipe de campagne de Biden. Jean-Pierre Papin, légende de l'OM, Tony Parker, l'ex-basketteur ou Soprano, le rappeur, feront tous partie jeudi de la centaine de porteurs de la flamme olympique à Marseille. Elle arrive mercredi, où elle débarque du Belém en provenance de son berceau grec, prise en main par Florent Manodou, qui sera son premier porteur pour un allumage du chaudron olympique vers 19h45. Autant dire que ça va vraiment commencer à sentir les Jeux, avec leur réjouissance, mais aussi leurs contraintes. En fin de semaine, les Franciliens vont ainsi pouvoir commencer à demander leur QR code pour pouvoir circuler dans le périmètre de sécurité à Paris à partir de la mi-juillet, Romain Schmitt.
Les touristes, les commerçants et les riverains vont tous devoir montrer ce précieux pictogramme noir et blanc. Pour l'obtenir, il faut obligatoirement s'enregistrer sur la plateforme dédiée qui ouvre vendredi prochain. Le QR code téléchargé sera valable dès une semaine avant la cérémonie d'ouverture, mais sans justificatif, l'accès aux abords de la Seine, du Trocadéro à Bercy, sera systématiquement refusé. En ligne, il faudra renseigner nom, prénom et date de naissance. Les profils seront ensuite confrontés au fichier des services de renseignement français pour validation. Et une fois l'enregistrement confirmé, un QR code sera transmis sur le téléphone de la personne qui en a fait la demande. Il faudra présenter ce laissez-passer aux forces de l'ordre avec sa carte d'identité au niveau des passages de sécurité. Passage mis en place une semaine avant la cérémonie d'ouverture. Après le coup d'envoi des Jeux, les abords de certains sites olympiques comme la Tour Eiffel seront concernés par ces QR codes.
Robin Schmitt, c'est sa première victoire en Formule 1. Le pilote britannique Lando Norris a remporté le Grand Prix de Miami hier soir devant le triple le champion du monde Max Verstappen. Il était temps, c'est lui qui le dit, à 24 ans après avoir attendu son 110e Grand Prix pour s'imposer. Enfin, PSG Dortmund, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Dans tous les cas, pour voir le match demain soir, il faudra payer à la télé via un abonnement ou au stade. Et alors là, ce sera du luxe, du très grand luxe, sachant qu'on ne trouve pas un billet sur les sites de revente Ticketplace à moins de 375 €. Ça monte jusqu'à 4 000 €, Thomas Vichard.
Maxime était prêt à mettre 600 € pour une place. Il en a finalement trouvé une à 450 et fera la route demain depuis Clermont.
J'ai jamais mis une telle somme et une demi-finale retour au Parc. Il n'y en a pas eu 50 dans l'histoire, donc c'est au stade qu'il faut la vivre.
C'est la même réflexion qui a poussé Thomas, 27 ans, à débourser 700 € en tout. À près de 500 € le billet, plus le transport depuis Rodez dans l'Aveyron et l'hébergement à Paris. Mais comme il n'a jamais vu le PSG au Parc des Princes, cette demi-finale, c'est le moment idéal.
Ça fera peut-être partie de mon top 5 des plus beaux jours de ma vie. Pour ces souvenirs-là, est-ce qu'il y a une valeur? Non, je pense pas, donc on ferme les yeux.
Hugo a lui renoncé. Il n'a rien trouvé à moins de 400 €. Et comme il est étudiant en alternance, impossible de mettre autant d'argent sur la table.
Ça représente presque un quart de mon salaire. C'est soit on va voir le match et on mange des pâtes, ou soit on essaie de vivre convenablement et on regarde le match avec des potes, quoi.
Des prix si hauts, ça désespère Elodie. Cette ancienne abonnée de la Tribune Auteuil pendant 20 ans craint de voir encore des travées remplies de spectateurs et non de supporters.
On est là en train de nous dire tout le stade doit être debout, mais les gens qui sont fanatiques et tout, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de prendre des places pour mettre une ambiance? Je suis pas sûre en fait.
Si Elodie a abandonné l'idée de s'acheter un billet, au cas où, elle tente quand même sa chance dans des jeux concours qui offrent des places.
Voilà, très cher football, PSG Dortmund demain soir, 21h au Parc des Princes.
C'était le journal de Florence Paracuelos.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce lundi, je vous raconte la crise en Argentine entre 1998 et 2002, un pays en faillite économique, maintenu sous respiration artificielle par le FMI.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur Inter.
IKEA. Mon cœur, on est bien mercredi aujourd'hui.
Non, on n'est pas mercredi.
T'es sûr?
Bah oui.
Oh non!
Difficile d'attendre pour profiter des crazy mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres IKEA Family, comme les boulettes végétales à 2,97 € au lieu de 5,95 €. Conditions sur IKEA.fr, crazy égale fou. Pour votre santé, évitez de grignoter.
6h41.
France Inter. Le 5-7.
Voici le carrefour du 5-7. Bonjour, cher chroniqueur.
Bonjour, bonjour.
Anthony Bélanger, votre histoire du monde.
Eh bien, partout en Europe, des livres rares du siècle d'or russe disparaissent des rayonnages des plus grandes bibliothèques. Le New York Times s'est penché sur ce mystère.
L'histoire économique, Béatrice Mathieu.
Alors, moi, je vais vous parler de nucléaire, d'uranium et du piège russe.
Capture d'écran, Eva Rock.
Et si on commençait la semaine avec un coup de cœur pour une série sur une famille dysfonctionnelle où on crie beaucoup.
Ah, bah lui aussi, il crie beaucoup. Ah, Daniel Morin.
Ah, moi, pardon. Aujourd'hui aux États-Unis, le vaisseau Starliner doit emporter des astronautes vers la station spatiale internationale. Des astronautes pas hyper rassurés. Starliner est fabriqué par Boeing.
La première chronique du Carrefour, c'est l'histoire politique avec vous, Arthur Berda. Emmanuel Macron n'a pas envie de devenir maire de Marseille, en tout cas pas à court terme.
Non, le président a mis fin au suspense hier dans La Provence et La Tribune dimanche. Je ne serai pas candidat à quoi que ce soit, aucune chance donc de le voir se présenter au municipal de 2026, même en position non éligible, et tant pis si certains de ses proches avaient tout prévu pour rendre possible cette idée un peu folle, notamment son amie Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté, chargée du plan Marseille en grand au gouvernement, avait en fait discrètement mandaté son mari pour étudier cette hypothèse. Ancien doyen de la fac de droit et de sciences politiques d'Aix Marseille, son expertise était formelle. Si Emmanuel Macron ne pouvait pas conduire lui-même la liste, rien ne l'empêchait d'y figurer et même de devenir conseiller municipal. En attendant, pourquoi pas de peut-être songer à briguer l'hôtel de ville après avoir quitté l'Élysée.
Alors à vous entendre, les choses semblaient quand même bien avancées.
Eh bien, il faut dire que la rumeur a été lancée par Emmanuel Macron lui-même il y a environ 10 ans, lorsqu'il a confié à plusieurs proches qu'il rêvait de prendre un jour la mairie de Marseille. Et il n'a rien fait pour démentir ce rêve depuis. Bien au contraire, après déjà 13 déplacements dans la cité phocéenne, il y est attendu mercredi pour l'arrivée de la flamme olympique. Ce sera sa 14e visite sur place en 7 ans, un record. Un pèlerinage biannuel dans sa ville de cœur, dont il profite chaque fois pour faire le point sur l'avancée du plan Marseille en grand. Un vaste chantier lancé en 2021 pour rendre son rang à la deuxième ville de France, moyennant une enveloppe de quelques 5 milliards d'euros.
Et est-ce que ça a permis de changer les choses sur place ?
Disons que les lourdeurs liées aux mésententes ville-métropole ont pour l'instant ralenti la plupart des projets engagés, qu'il s'agisse de la relance des transports, des travaux dans les écoles, de la modernisation des logements ou des investissements dans l'hôpital. Et c'est peut-être justement ce qui a conduit Emmanuel Macron à renoncer à ses ambitions municipales. Jamais élu nulle part avant de devenir président de la République, le chef de l'État a certes toujours dit que le mandat de maire était celui qui se rapprochait le plus du sien, car il permet d'agir directement sur la vie des gens. Mais si sa débauche de moyens et d'énergie tarde à être couronnée de succès depuis l'Élysée, il a sans doute considéré qu'il obtiendrait encore moins de résultats à une échelle d'action inférieure.
Arthur Berda du Figaro, vous êtes avec nous tous les lundis pour l'histoire politique. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, des voleurs très organisés s'en prennent depuis 2 ans aux bibliothèques publiques dans toute l'Europe.
Plus de 170 livres volés en si peu de temps, le tout pour une valeur de 2,5 millions d'euros. Tous russes, ces livres, c'est même du jamais vu. De plus, les voleurs sont sélectifs, ils ne s'en prennent qu'au siècle d'or, aux auteurs du siècle d'or de la littérature russe, le 19e siècle, avec une prédilection pour la Sainte Trinité, c'est-à-dire Lermontov, Gogol et Pushkin. Dans ce trio littéraire, ce sont les premières éditions du poète Alexandre Pushkin qui sont les plus recherchées par les voleurs. Il n'a vécu après tout que 37 ans et les éditions de son vivant sont donc extrêmement rares. Des livres ont disparu à Tartu, en Estonie, à Riga, Vilnius, Berlin, Munich, Helsinki, Prague, Genève, Lyon et à la BNF à Paris et surtout Varsovie, dont 78 ouvrages se sont volatilisés.
Mais comment s'y prennent les voleurs ? Est-ce qu'ils ont un mode opératoire particulier ?
Alors toujours le même, des pseudo-lecteurs se présentent comme des chercheurs, demandent à consulter les livres les plus rares des collections russes, de chacune des bibliothèques visées. Reste parfois une dizaine de jours pour endormir les soupçons. Puis l'histoire s'achève toujours de la même façon. Ils remplacent les originaux par des facsimilés de très grande qualité, puisque les faussaires vont jusqu'à imiter, vous savez, les taches brunes qui accompagnent le vieillissement des livres.
Ouais.
Du grand art, ce qui fait dire aux enquêteurs à travers toute l'Europe qu'on a affaire à un vrai réseau organisé et très sophistiqué qui s'en prend aux bibliothèques parce que leurs mesures de sécurité laissent souvent à désirer et qu'elles sont ouvertes à tous les publics.
Et les enquêteurs, justement, est-ce qu'ils ont des pistes ?
Alors, les enquêtes sont toutes en cours et on sait que l'investigation dans toute l'Europe a reçu le nom de Opération Pushkin. On sait aussi que 9 suspects ont été arrêtés, tous des Géorgiens. Les ultimes arrestations ont eu lieu en Géorgie à la fin du mois dernier. 4 hommes. Ce qui fait penser à une organisation à 2 niveaux. Les petites mains géorgiennes qui se chargent des vols, se déplacent en bus à travers l'Europe pour mieux passer sous les radars. Et des commanditaires qui fournissent les facsimilés et revendent les ouvrages.
Et on sait ce que sont devenus ou ce que deviennent les livres. Est-ce qu'ils ont été envoyés dans quel pays ?
Eh bien, en Russie, Europol a déjà repéré plusieurs exemplaires volés et revendus aux enchères à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Là-bas, ces éditions originales peuvent coûter l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine, il est désormais interdit aux bouquinistes occidentaux de vendre des livres à des résidents russes. Sanctions oblige. En conséquence, le marché noir est florissant. Et depuis qu'ils ont écumé des bibliothèques de prestige, eh bien, les voleurs se sont rabattus sur les bibliothèques universitaires, dont certaines sont richement dotées en littérature russe, héritage de ces Russes blancs qui, en fuyant l'Union soviétique, ont emmené avec eux leurs précieux livres.
Anthony Bélanger pour l'Histoire du Monde. On passe à l'écho.
Histoires économiques avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
L'histoire économique aujourd'hui avec Béatrice Mathieu. Les États-Unis viennent de dégainer une nouvelle arme financière dans l'arsenal des sanctions contre Moscou.
Alors après le gaz, le pétrole et les métaux stratégiques comme l'aluminium ou le cuivre, les États-Unis veulent désormais bannir les importations d'uranium enrichi russe. Alors le Sénat américain a voté la semaine dernière une loi à l'unanimité, ce qui est quand même très rare en ce moment, qui doit maintenant être signée par le président Joe Biden, ce qui est très probable, et elle entrera en vigueur sous 90 jours. Alors, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 2 ans, les États-Unis avaient clairement identifié leur dépendance à l'égard de Moscou sur le nucléaire. L'Amérique, qui a le plus gros parc parc au monde, 90 réacteurs, hein, importe 27% de son uranium de Russie, ce qui en fait le premier client étranger de Rosatom, le géant nucléaire russe. Alors, il faut rappeler que la Russie est le premier producteur mondial d'uranium enrichi avec 40% du marché. Alors, avant de se décider de cet embargo, les États-Unis se sont quand même préparés. Ils ont 3 à 4 années de stock devant eux. Ils relancent une filière d'enrichissement made in USA.
Et est-ce que l'Europe pourrait suivre ?
Alors, c'est la grande question. Pour l'heure, l'Union européenne n'a rien dit. Et la France, en première ligne sur ce sujet très sensible, s'est bien gardée de faire le moindre commentaire. Il faut dire qu'en la matière, nous importons entre un tiers et la moitié de nos besoins en uranium enrichi de Russie. Ça dépend des années, en fait. Mm-hmm. En silence, on se prépare, nous aussi. Orano, l'ex-Areva, a annoncé il y a quelques mois un investissement de 1,7 milliard d'euros pour augmenter de 30% les capacités d'enrichissement de son usine de Tricastin à Pierrelatte dans la Drôme. Premier coup de pioche en septembre prochain, mais il faudra attendre dans le meilleur des cas 2028 pour que cette nouvelle usine entre en fonctionnement. Et en matière de nucléaire, on sait que les délais peuvent sérieusement déraper. Alors en fait, on aurait pu s'éviter tous ces tracas d'approvisionnement si on avait fait le choix d'investir dans le passé dans une autre technologie nucléaire, différente de celle qu'on a choisie, celle des réacteurs à neutrons rapides.
C'est quoi ça, les réacteurs à neutrons rapides ?
Alors derrière ce terme barbare, si je vous dis phénix et super phénix,
oui,
ça vous parle peut-être. Hein, voilà. Alors des prototypes que Lionel Jospin a décidé d'arrêter en 1997. Pareil pour un réacteur expérimental du CEA baptisé Astrid, qu'Emmanuel Macron a fermé en septembre 2019. L'avantage de ce type de réacteur, il ne fonctionne pas à l'uranium enrichi, mais à l'uranium appauvri. Et ça, la France en a des stocks pléthoriques sous forme de déchets nucléaires. Alors, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, nous dit-on. Encore faut-il qu'elles soient bonnes.
C'était l'Histoire économique avec Béatrice Mathieu. Vous êtes journaliste à l'Express. 7h10, capture d'écran. Eva Rock, vous avez donc eu un coup de cœur pour une série.
Ah, qui tient en un objet une cigarette. Alors oui, je sais, c'est pas très politiquement correct, mais ça fume beaucoup en permanence. Une cigarette sur laquelle tirent nerveusement tous les protagonistes de la série. Lolo, pour commencer, Edith Bouchon, jeune comédienne de métier, la sœur Rafou, pourtant enceinte de 8 mois, Isabelle, la mère ultra nerveuse et angoissée, qui porte pourtant à son cou un gros collier sur lequel il est inscrit « cool », et le père Jean-Paul, au ventre bien arrondi, qui a une annonce à faire.
C'est exactement ce qu'avait eu oncle André, ça se souhaite très bien.
Une tumeur de 7 cm, ça se soigne très bien. Non mais tu délires, ma pauvre Isabelle.
Victor Moine a dit que ça s'opérait très bien. Tu crois à part avec ton cancer à la con, là.
Cancer du côlon ! Malade mentale !
Mais bon, bah, ça va, tout le monde a des cancers aujourd'hui, absolument tout le monde. C'est aussi banal que d'avoir la grippe.
T'as raison, mon cancer, c'est une grippe. Non mais t'as raison !
Bon, arrêtez de gueuler 2 secondes ! Je comprends rien, là !
Lapinou, je vais t'expliquer calmement. Il se trouve que j'ai un cancer gravissime, un cancer du côlon, et qu'il me reste genre 5 mois max, ok ? C'est clair, là ?
L'annonce du cancer du père va bouleverser l'équilibre de la famille, alors pas très équilibrée, famille dysfonctionnelle où tout le monde gueule pour la moindre chose, des cris de colère en guise de cris d'amour. Parce qu'au fond, ces quatre-là s'aiment, ils semblent juste démunis de mots pour se le dire, ils semblent surtout perdus face à la maladie, comment l'affronter, comment ne pas avoir peur, comment cacher sa crainte de voir l'autre disparaître. On retrouve Bouchon et ses angoisses d'ailleurs devant son meilleur ami Romain, formidable Sébastien Chassagne, avec qui elle s'apprête à tourner un long métrage au Japon.
Ça va vraiment faire... Je pleure dans les chaudières et tout, mais je viens juste d'apprendre que mon père a un cancer. Pas grave, hein. Mais je sais pas trop comment réagir, je sais pas quoi ressentir.
Ok, alors... Pardon, je devrais certainement pas te dire ça, mais déjà, tu dis chaudière à la place de chaumière.
Chaumière.
Et ensuite, pardon, mais ça veut dire quoi, un cancer pas grave ?
Ouais, c'est qui va faire la chimio et ça va aller avec la chimio.
Mais c'est un drame ou une comédie,
bah,
cette série ?
Les deux, et c'est délicieux d'intelligence et de sensibilité. Une succession d'éclats de rire et des instantanés d'émotions qui surprennent au détour d'un mot ou d'un regard. Bouchon, titre de la série, transpire de sincérité celle d'Éléonore Coste, comédienne qui a longtemps participé au sketch du collectif Golden Moustache et qui signe le scénario, la réalisation, interprète Lolo et raconte sa vie en évitant soigneusement de se regarder le nombril et en faisant preuve surtout d'autodérision. À ses côtés, dans le rôle de Rafou, la sœur, il y a Raphaël Coste, sa vraie sœur. D'ailleurs, les voilà toutes les deux dans un cours de yoga. Et Lolo vient d'annoncer qu'elle a couché avec son ami Romain.
C'était bien roi. Bon, il a mis un os.
Arrête avec cette obsession, ça n'existe pas, les bites en un 6, ça existe. C'est des bites comme mon doigt, là, toute vite.
Il n'y a pas d'os dans la bite.
Chut. Il n'y a pas d'os dans la bite. Ben, comme une asperge, alors, si tu préfères. Tant mieux pour toi si t'en as jamais connu.
Pardon. J'ai un fou rire. Elles s'agacent mutuellement toutes les deux, s'inquiètent l'une pour l'autre, se détestent et s'aiment, et on se dit que dans leur vie, dans leur existence réelle, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bouchon, c'est un jeu d'acteurs et d'actrices qui frôle la perfection. C'est l'art des cadrages où chaque plan peut surprendre par un détail étonnant. C'est une bande originale à conserver, précieusement. Et puis c'est surtout l'image de cette cigarette, une façon de dire que la vie se consume très vite. Un éloge de l'éphémère qui ne doit jamais nous faire oublier d'aimer.
Bouchon, une série en 8 épisodes de 15 minutes, disponible gratuitement sur arte.tv, ça fait beaucoup rire Eva Rock.
De plus en plus jeune, le portable devient une addiction.
Pour les enfants.
Comment dompter les écrans ?
Hé ! À Radio France, on a la solution. Les podcasts jeunesse. Oli, les Instrus, les Odyssées, Salut l'Info, les aventures de Tintin. Plus de 3500 podcasts pour tous les enfants. Une offre de loisirs 100% gratuite et 100% sans écran. À retrouver sur radiofrance.fr et sur l'appli Radio France.
Avec Radio France, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
France Inter, partenaire de la carte blanche à François Morel, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris. Trois spectacles à ne pas manquer. Tous les marins sont des chanteurs pour fêter l'amour et l'amitié. Le dictionnaire amoureux de l'inutile, une lecture à deux voix des meilleures pages d'un dictionnaire, pas comme les autres. Et J'ai des doutes, un spectacle musical en hommage à Raymond Devos. Un artiste, François Morel, pour trois spectacles, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris. Un événement France Inter.
7h05.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Marie-Pierre Planchon, le ciel est encore bien gris ce matin.
Et oui, car on est cerné, Mathilde, par une perturbation déjà qui est passée cette nuit et sur l'ouest du pays, qui glisse déjà vers l'est, mais qu'on retrouve ce matin des Hauts-de-France, au Grand Est, au Centre-Est. Elles sont plus éparses, ces pluies, sur le sud du Massif central jusqu'au Golfe du Lion, à la Côte d'Azur, avec de la neige sur les Pyrénées et les Alpes. Et puis à l'ouest, donc, on a une goutte froide sur l'Atlantique et on a des averses qui s'enroulent autour, qui donnent une petite dépression sur la Bretagne ce matin jusqu'au Pays de la Loire, avec déjà un caractère orageux. Puis on a une bande assez large du Pays basque, en remontant vers les Charentes, au Limousin, à l'Île-de-France, à la Normandie, sous un ciel un peu moins nuageux, avec quand même une averse possible, sous des valeurs un peu basses pour la saison. Il ne fait pas plus de 7 en Ille-et-Vilaine à Fougères, comme en Mayenne, alors qu'il fait déjà 14 à Mulhouse. Vous réveillez avec 12 à Paris.
Et il y aura encore plus de pluie pour cet après-midi.
Eh oui, même si la perturbation s'échappe vers l'est, elle va arroser encore les régions de l'Alsace, aux Alpes, à la Provence, à la Méditerranée, aux Pyrénées, avec toujours de la neige, comme sur les Alpes d'ailleurs, excepté la Corse qui va rester à l'écart sous un ciel laiteux. Et puis à l'opposé, ben, les pluies liées à cette goutte froide rentreront davantage sur l'ouest avec pas mal de pluie, mais aussi des orages. De la Normandie aux Charentes, ces averses gagneront les régions de l'Île-de-France et du Centre. En revanche, retour de quelques éclaircies des Landes à l'Auvergne, à la Lorraine. Mais une averse n'est toujours pas exclue sous des températures de saison, pas plus de 15 au Havre, 19 à Paris et quand même 26 à Ajaccio.
Marie-Pierre Planchon, contre les lundis chagrins, j'ai le remède, moi. Daniel Morin.
Bravo.
Et ça va,
ouais, ça va les amis,
oui. Super.
Eh ben moi, pas du tout. Oh. Émotionnellement, je suis au bord du gouffre. Oh. Pourquoi ? Eh ben la nouvelle est tombée ce week-end, ils vont arrêter l'émission des chiffres et des lettres. Non. Voilà. Est-ce que j'en veux à France Télé ? Oui, un peu, on peut dire ça comme ça. Bande de salauds ! Ah ça, pour nous faire des émissions spéciales environnement, envoyer des reporters au bout du monde pour prendre la température d'un cactus qui a les vapeurs, il y a du monde, hein ? Ça, pour nous faire des spéciales fêtes de la musique avec en fil rouge un intermittent bourré qui joue pieds nus du cracrin, on sort des budgets ! Mais quand faut défendre le patrimoine culturel et Laurent Romeshko, y'a plus personne ! On ferme boutique, Monique, on baisse le rideau, Fernando, on plie les gaules, Francis Holm ! C'est honteux !
Oh, non.
Tout le monde est sous le choc, écoutez-les. Oh là là. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein. Hier, le président chinois actuellement en visite à Paris était furieux. Et il l'a fait savoir, hein, sa descente d'avion. Et furibard, monsieur Xi. Qu'est-ce que c'est que ce pays de merde qui se permet d'arrêter des chiffres et des lettres ? Tous les week-ends, je regarde des chiffres et des lettres avec ma femme. Je suis venu pour rencontrer personnellement Laurent Romeshko. Si dans 24 heures, vous n'avez pas changé d'avis, madame Xi et moi, on rentre à la maison. Et s'il le faut, on embarque Romeshko. Ça devient une affaire diplomatique. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Allez, autre énorme affaire, Bruno Le Maire au volant qui balance un cycliste. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Bruno ? Salut Daniel, coucou les coquines. Bah, je suis sorti, comme d'hab, du ministère vers 20h, après ma séance de muscu. J'aime soulever de la fonte en fin de journée. Oui, quand le soleil se couche, mon corps se lève. Et après ma séance, je monte dans ma bagnole et je mets de la musique. Oh, j'adore ce titre. Je l'adore parce que c'est un peu ma vie. J'ai un truc avec les filles. Un truc bah, que t'expliques pas. Hein. Alors bien sûr, mon physique joue beaucoup. Hein. Je parlais hier avec mon miroir et on était d'accord. J'ai le plus beau croupion de la 5ème République. Et puis... Puis le téléphone a sonné, c'était Laurent Romeshko qui m'annonçait la terrible nouvelle. J'ai explosé en sanglots et à cause des larmes, j'ai pas vu l'autre con sur son vélo. Du coup, impact, je descends, je ramasse le gars, je le sermonne. Dis donc, toi, petit homme au physique ingrat, tu as de la chance que le grand Bruno ait des réflexes dignes de ceux du tigre. Sinon, je t'aurais roulé dessus et tu ferais moins ton malin avec un pneu dans la bouche. Enfin, tout va bien. Je n'ai rien et c'est bien là le principal. En plus, dans le monde, il y a des trucs bien plus graves. Hein. L'arrêt des chiffres et des lettres, c'en est la preuve. Ah ouais, la vraie cata, l'arrêt de cette émission. Le drame, c'est horrible, c'est atroce. Pff, moi, j'en peux plus, je sais pas ce que je vais devenir. La France plonge dans une insondable tristesse. Et lui, là, lui, à côté, le petit gars, notre voisin de prestige, je vous le dis, je l'ai croisé, il est étranglé par le chagrin. Nico était un très très grand fan de cette émission. Oh, combien de fois l'ai-je entendu dire à un invité qui leur mettait une enveloppe, parfait, le compte est bon. Oh. Ah ça, je peux vous le dire, c'est pas gêné. Et il passait des soirées entières à visionner sur DVD les meilleurs moments de l'émission, et ce, pour améliorer son français, que la direction de France Inter trouve légèrement boiteux. Et pour ces moments de joie, il invitait toujours, à chaque fois, ses deux Amazones, Sonia et Aline, oui. Celles qu'il surnomme avec beaucoup de tendresse, la gare des Michards.
Je croyais que vous alliez dire, voyez les consonnes.
Ouais. Non, parce qu'il y a con dedans aussi. Et qu'on